Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. Beaucoup de choses à discuter ensemble ce matin pour les deux prochaines heures. Déjà, je vous annonce que ce sera Bob le chef qui sera notre invité de notre entrevue sans filtre en deuxième heure d'émission. On va revenir également sur l'importance de diminuer notre consommation, notre utilisation de plastique. Vous avez vu dernièrement d'autres resserrements en ce qui concerne les sacs de plastique. On se questionne beaucoup sur l'usage de plastique à utilisation unique. On sait que ça n'a pas de bon sens. En même temps, on le dit souvent et de plus en plus en matière d'environnement, oui, il y a des solutions, mais si c'était facile, cette transition, on aurait déjà fait la transition en question. Évidemment, il faut bien sûr chacun regarder nos propres habitudes puis essayer de faire son effort. On aura en tout cas tout à l'heure, c'est intéressant, je vais vous présenter une alternative québécoise, une alternative écologique au plastique. Vous en avez jamais entendu parler. On aura également Amélie Côté, qui est une spécialiste en gestion des matières résiduelles, qui va nous donner des trucs aussi pour essayer justement de réduire notre consommation de plastique. On va revenir sur les victimes d'agressions sexuelles. Il y a ce matin justement une conférence de presse pour annoncer une loi qui obligerait les juges à suivre une formation, parce qu'on se souvient d'un juge en Alberta il y a quelques années qui avait dit à une victime d'agression sexuelle qui croyait pas très crédible, « Madame, c'est une jeune femme de 19 ans, pourquoi vous avez pas serré les genoux quand vous vous étiez fait agresser? » Et il avait tendance à prendre pour la théorie de l'agresseur et non de la victime, ce qui est assez aberrant quand même. Alors une petite formation, ça serait pas perdu. Mais d'abord, et ça va vous inquiéter sans doute si vous êtes propriétaire d'une maison, sachez qu'il y a une dame de 75 ans qui, peu de temps après la mort de son mari, un mois plus tôt, s'est rendue compte, elle a appris que sa maison venait d'être vendue à son insu. Imagine. T'as une maison, tu penses que t'es propriétaire. C'était pas elle qui l'habitait avec son conjoint. Il la louait à des gens depuis une couple d'années. Son mari décède et là, la dame se fait dire, en fait, c'est son fils qui l'a appris, « Hey, ta maison t'appartient plus, maman. Là. Il y a quelqu'un qui l'a fraudée. » Ça n'a pas de bon sens. Vous dites, ben voyons donc comment ce genre de choses peut arriver. C'est une maison qui était évaluée à 1,2 million de dollars, libre d'hypothèque, donc il n'y avait pas d'hypothèque dessus. Donc, plus facile dans ce temps-là, justement, de frauder. Plus facile, mais surtout plus intéressant pour les fraudeurs, parce que la maison est toute payée, tu comprends? Si tu as une grosse hypothèque, moins intéressant pour un fraudeur d'aller te la prendre. Dans ce cas-ci, en tout cas, bon, on a porté plainte et je vous rassure, ça a fini par s'arranger. Vous allez apprendre comment dans quelques minutes. J'en discute avec plusieurs invités. D'abord, Sylvain Paquette, qui est président et analyste en fraude au Bureau canadien du crédit. Bonjour, Sylvain Paquette.
Ah, bonjour, Isabelle.
Sylvain, des cas comme celui-là, vous en voyez régulièrement. Moi, j'ai été étonné d'apprendre que vous en voyez beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer.
Ils ne viennent pas tous à nous, malheureusement, mais il y a plusieurs cas qui les victimes nous contactent pour avoir de l'assistance ou nous sont référées tout simplement par des compagnies d'assurance.
Combien de cas vous avez vus depuis 2 ans, par exemple?
Hein, on a eu 5 cas qu'on a traités, mais il y a des cas qu'on a été contactés, mais qu'on n'a pas donné suite au dossier parce que le client a choisi une autre alternative. Mais on entend de plus en plus parler. Et d'ailleurs, l'Association des prêteurs hypothécaires, l'année dernière, le SPVM avait fait une conférence là-dessus là, pour raconter justement qu'on voit une effervescence là, dans le vol de titres.
Et on l'explique, cette effervescence de fraude immobilière? Comment vous expliquez ça, Sylvain? Je disais que, bon, évidemment, quand ta maison est toute payée, tu deviens plus intéressant pour des fraudeurs, mais comment peuvent-ils le savoir?
Bien, il y a plusieurs façons. La première, c'est qu'il y a certaines pratiques dans certaines cultures que lorsque la maison elle est finie de payer, ils vont mettre des lions blancs devant la porte. Alors ça, c'est fortement déconseillé parce que les fraudeurs vont se promener sur la rue, vont chercher une maison avec des lions blancs devant, puis ils vont tout de suite savoir que la maison est finie de payer.
Des lions blancs. Il est en train de me dire les statues de lions blancs devant les maisons. Là. Je sais qu'on y en a beaucoup dans la communauté italienne, Saint-Léonard. On voit ça, ce genre de certains quartiers. Là. Ça veut dire que ta maison est payée si tu mets des lions blancs.
Effectivement. Voilà. Donc, c'est facile pour les fraudeurs. Ils n'ont pas besoin de chercher bien loin. Et il faut savoir aussi qu'il y a une distinction. Il y a deux façons de voler des titres de propriété. Il y a d'abord par le vol de titres qui est fait sans le consentement de la victime. Donc, on s'approprie le bien sans le consentement. Et il y a une autre façon de faire qui s'appelle la fraude en forclusion. Et celle-là, c'est avec le consentement de la victime, mais la victime ignore qu'elle fait l'objet d'un stratagème de fraude. Donc, c'est une autre façon de lui prendre sa maison. Celui-là est beaucoup plus répandu, très peu connu des autorités, très peu de victimes qui vont porter plainte parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont l'objet d'une fraude.
Mais sur ce dernier point, Sylvain, comment ça marche? Parce que là, vous dites que la victime a consenti, mais elle ne sait pas à quoi elle a consenti?
Bien, les fraudeurs là, vont d'abord passer par des bases de données publiques où on peut voir les gens qui ont des problèmes financiers avec leur hypothèque, qui font l'objet d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Alors, ils vont solliciter ces gens-là, leur proposer un prêt pour les aider. Et ensuite, ils vont créer un faux défaut sur le prêt, puis ils vont reprendre la maison. Ils vont faire usage d'intimidation, voire parfois même la force, pour demander aux gens de quitter puis prendre possession de l'immeuble.
Ça arrive aussi parfois que les gens qui sont dans le besoin payent leur hypothèque, consentent à des deuxièmes hypothèques et que certaines personnes demandent de rapatrier le prêt tout de suite, un peu comme le ferait une banque, par exemple. Mais là, c'est des particuliers qui n'ont qu'un intérêt, celui de prendre possession complètement du bien. Vous avez vu ça aussi?
Exactement.
Ouais.
Oui, c'est très populaire. C'est même enseigné là, dans ce qu'on pourrait dire le marché noir de l'immobilier. C'est une façon de se monter un parc immobilier et d'acquérir des maisons. C'est malheureux, là, les gens ne sont pas au courant. Il y a plusieurs solutions. Lorsqu'on fait l'objet de problèmes financiers, par exemple, l'assureur hypothécaire a souvent un programme pour vous permettre de payer la maison pendant 6 mois ou 1 an si vous avez fait l'objet d'un accident de travail, maladie ou séparation ou quelconque situation qui met vos finances en péril. Ça existe, ces programmes-là, mais les gens l'ignorent. Alors, les fraudeurs vont tout de suite contacter les victimes dès qu'ils vont voir sur le registre public qu'un préavis d'exercice va être émis. Donc, les gens n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de voir les autres alternatives, et les fraudeurs vont tout de suite, ce sont vraiment des maîtres fraudeurs, là, il faut le dire, ils vont approcher les victimes en se faisant passer pour des gens qui sont là pour les aider. Ils ont toutes sortes de stratagèmes, d'ailleurs, pour y arriver, et les gens se font prendre au piège et perdent leur maison. Donc, ça, c'est la deuxième façon, la fraude en forclusion. Puis le cas de madame qu'on a vu, ça c'est un vol de titre directement.
Carrément, ben là, même que, ben évidemment, bon là, des gens se sont carrément fait passer pour le propriétaire. Ce qui est mal tombé dans leur cas, c'est qu'il était mort un peu de temps avant, mais ça n'a pas l'air d'avoir dérangé personne parce que lors de la vente de la résidence chez le notaire, il y a un gars qui s'appelle Haddad, qui a d'ailleurs écopé 18 mois de prison, mais ça a l'air qu'il va sortir dans 6 mois parce qu'il aurait déjà fait une partie de son temps. Il a personnifié le propriétaire décédé au nez du notaire qui s'est rendu compte de rien, qu'il ne savait pas, qu'il n'y avait pas moyen de le savoir visiblement. Il y avait des fausses pièces d'identité. Tout était faux, mais le notaire lui-même n'a pas été capable de savoir ça. Donc, même les notaires sont pas à l'abri de se faire avoir aussi?
Non, les notaires sont malheureusement pas à l'abri. Ça nécessite d'approfondir l'identification de la personne, de poser plus de questions, d'aller plus loin. Mais les fraudeurs se procurent des fausses pièces d'identité pour cette transaction-là. Ça a peut-être coûté 50 US là, sur le dark web. Alors, c'est très peu de dépenses pour un fraudeur pour acquérir une telle somme d'argent. Donc, le risque est quand même très payant pour les fraudeurs.
Là, vous disiez, vous aviez 5 cas au moins là, depuis 2 ans, que le problème, c'est que les gens, ils ont honte hein, de dire, finalement, Sylvain Paquette, je me suis fait voler ma maison à mon insu. C'est sûr que c'est pas le genre d'affaires dont on est fier, mais en même temps, c'est pas forcément de notre faute non plus. Là, sur le cas de la dame, il y était 4 fraudeurs, là. Il y a des co-accusés dans cette histoire-là aussi. 4 personnes, ça commence à être un stratagème de groupe, là. Donc, à un moment donné, personne n'est à l'abri de ça. C'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle on en parle d'ailleurs à nos auditeurs et auditrices ce matin. Et puis, t'as pas besoin d'être peu éduqué non plus. Il y a un médecin dernièrement qui vous a contacté parce qu'il s'était fait voler sa propriété lui aussi.
Oui, ben c'est quelqu'un qu'on doit rencontrer prochainement, donc pour étudier le dossier et voir là, comment on va pouvoir l'aider à se sortir de là. Mais les fraudeurs peuvent aller très loin. Là. Ils peuvent transférer vos compagnies, vos entreprises. C'est des cas parfois vraiment un cauchemar là, que ces gens-là vivent. Alors, ce cas-là, on ne l'a pas encore rencontré, mais c'est un cas qui nous intéresse.
Et comment on se sort de ce cauchemar, Sylvain Paquette?
Bien, il y a plusieurs moyens. Là. D'abord, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de se procurer une assurance-titre auprès d'un assureur. Et ça, il y a trois assureurs qui font ça. Il y a FCT, Stewart Title et Chicago Title. Et ces compagnies-là vont vous offrir pour une somme entre 200 et 300 $ une assurance-titre sur votre propriété qui est valide jusque pour toute la période de temps dont vous êtes propriétaire. Et cette assurance-là a une protection contre le vol d'identité lié au vol de titre. Mm-hmm. Donc, vous serez automatiquement remboursé là, pour les honoraires d'avocat pour récupérer votre bien. Parce que en moyenne, on parle entre 40 et 70 000 $ de frais d'avocat que ça va coûter pour récupérer votre propriété.
Oh mon Dieu! Entre 40 000 et 70 000 $ en frais d'avocat pour renverser la situation et pouvoir retrouver la propriété de sa maison.
Effectivement.
Et mon Dieu, ça ne coûte pas deux piastres. Ben écoutez, restez avec nous, Sylvain Paquette. Sylvain est président et analyste en fraude au Bureau canadien du crédit. Il y a beaucoup de questions sur l'immobilier, donc forcément, on a pensé discuter avec un agent, un courtier immobilier agréé. On va lui parler tout de suite après la pause. Bien sûr, si vous avez déjà été victime de fraude de ce genre, vous nous appelez. Mais ce matin, je vous pose la question, êtes-vous inquiet devant l'augmentation de ces fraudes financières? Il y en a de toutes sortes. Puis là, vous voyez, là, c'est pas un cas ici et là comme ça, rare. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment être outillé? C'est tout ça un peu qu'on discute ce matin ensemble. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Je vous pose la question, est-ce que ça vous inquiète, cette recrudescence, cette augmentation de fraudes financières? Les fraudes en question, ce sont des cas de plus en plus nombreux de gens propriétaires d'une maison. Ça peut arriver avec des condos, mais qui finalement sont fraudés, dont on vole l'identité, dont les fraudeurs se présentent même chez le notaire avec des fausses pièces d'identité. Ça peut être une carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, carte du gouvernement du Canada. Puis c'est facile de prendre l'identité de quelqu'un aujourd'hui, on le sait. Ils vont se présenter chez le notaire, vont signer les papiers comme si c'était vous le propriétaire. Imaginez combien ça coûte pour avoir sa maison, renverser la situation, retrouver son titre de propriété. Ça peut coûter entre 40 000 et 70 000 $. C'est pas rien. On vous suggère donc de prendre une assurance titre qui coûte autour de 200, 250, 300 $ selon le notaire. Ce qui est fascinant, c'est de voir que, par exemple, dans certains quartiers, certaines cultures, il y a des propriétaires qui vont mettre des lions blancs devant leur maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison est payée, il n'y a plus d'hypothèque. Très tentant pour les fraudeurs. Moi, je me demande, les lutins puis les flamants roses, qu'est-ce que ça veut dire devant ton terrain? Tu sais, quand même, ça veut-tu dire d'autres choses? On va, bien sûr, vous donner l'occasion de parler de cette situation-là et de nous dire si vous êtes inquiet. 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Je voulais parler à un agent, Daniel Adam, est courtier immobilier agréé, l'expert immobilier. Il est coach en investissement immobilier chez Immo Facile. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Isabelle.
Très, très bien. Ça vous étonne, Daniel, des transactions comme celle-là? Vous en voyez, vous, beaucoup, des transactions suspectes?
Malheureusement, on en voit passer. En 32 ans de métier, j'en ai vu quelques-unes qui me semblent louches. Je dirais, hier, je coachais justement un étudiant qui travaillait avec quelqu'un qui lui a offert de faire un flip avec lui. Donc, c'est la méthode qui est utilisée, donc, on va appeler dans le métier il y a un poteau qui s'est installé dans le secteur. Donc, autrement dit, la personne a acheté une propriété. Donc, l'achat s'est fait normalement. Ça va. Ensuite de ça, une personne a été créée, si je peux exprimer l'expression comme ça. Tu en as déjà vu. Qui a pas d'emploi, qui a rien. Mais on lui crée une job. On lui crée des dépôts à terme. On lui crée plein de choses qui fait qu'il y a un bureau de crédit excellent. Et avec cette personne-là, on va acheter la propriété. Et on va chercher un refinancement sur une maison qui est en fait avec un... C'est le jargon du métier, un poteau. C'est quelqu'un qui n'existe pas, mais qui existe sur papier. Fait que ça, c'est une autre forme de vol, pas d'identité, mais presque, là, de choses. Vous, des transactions comme ça, j'en ai déjà vu passer à l'occasion. Je dirais, sur le cas de la rue Outremont, ils ont été chanceux, les fraudeurs, d'une certaine façon, là, parce que l'avis de transmission, autrement dit, quand il y a un décès quelqu'un décède, on doit enregistrer un avis de transmission. L'avis de transmission n'avait pas été enregistré parce que le notaire, s'il y avait eu un avis de transmission d'enregistrer, aurait vu la fraude. Mais il y a toujours un 2 à 3 mois avant d'enregistrer suite à un décès, l'avis de transmission. Alors, comme ça n'avait pas eu lieu, ils se sont faufilés juste au bon moment.
Vous, comme agent, comme courtier immobilier, oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que les agents peuvent faire devant ce genre de fraude? Est-ce que un agent immobilier a les connaissances, la capacité, l'expérience aussi? J'imagine que quelqu'un d'expérimenté comme vous, vous arrivez devant un client poteau, vous dites, bon, le drapeau rouge se lève, mais c'est pas le cas de tout le monde. En ce moment, là, dans un marché avec une telle effervescence comme en ce moment, là, j'imagine que ça y va vite, là, on fait pas attention forcément.
Oui, malheureusement, tout va très vite. Et aujourd'hui, avec l'informatique, les fraudeurs ont accès, ils restent à la maison, puis l'ordinateur, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comme disait M. Paquette, on peut se procurer sur le marché noir pour 50 US des fausses identités. Tout va vite, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ben, c'est d'être à l'affût le plus possible, de s'informer le plus possible, de suivre des formations le plus possible comme courtier pour justement pouvoir détecter ou sentir quelque chose qui fonctionne pas. J'ai déjà eu un cas, moi, d'un couple qui divorçait. Puis la madame qui était devant moi, c'était la nouvelle conjointe qui disait qu'elle était propriétaire, puis qui vendait la maison, puis qui signait, tu sais. Fait que j'ai senti le poteau rose tout de suite. Mais, tu sais, c'est pas évident, là, tu sais. T'es devant un couple, puis tu ne leur demandes pas de pièce d'identité comme courtier quand tu vends. Mm-hmm. Alors, tu dis, il y a monsieur et madame, mettons, Dubois, puis monsieur et madame Dubois signent la transformation, mais l'autre madame Dubois, c'est madame Clermont, tu sais. Ouais. Fait que ça va tout se rendre chez le notaire, cette histoire-là, tu sais. Fait que on a des affaires comme ça à l'occasion. Il faut être un peu plus diligent, un peu plus allumé, là. Puis c'est sûr qu'après 32 ans, on en voit, puis j'en vois encore de toutes les couleurs, tu sais. Fait que, il y en a moins qu'il y en avait, mais là, c'est plus l'informatique, donc ça se fait beaucoup plus vite qu'autrefois où c'était de longs processus avec de faux documents, de faux emplois, de faux ci, de faux ça.
Ouais, l'assurance-titre, est-ce qu'il faut vraiment la prendre? Sylvain Paquette suggère aux propriétaires de le faire, là, ça coûte quelques centaines de dollars.
Oui, c'est une excellente décision de business. Surtout les gens, tantôt, tu parlais de flamants roses. C'est qui les flamants roses? C'est des snowbirds, hein? Ils mettent des flamants devant la maison parce qu'ils s'en vont comme snowbirds. Fait que ça serait pas une bonne indication à faire.
Ouais.
Mais je dirais oui, tu sais, FCT, Stewart, Chicago Titles, donc ces assurances titres-là. Si on a une maison qui n'a plus d'hypothèque, qu'est-ce que c'est 200-300$ d'investissement pour protéger son bien, son gagne-pain, qu'on a été 20 ans à payer son hypothèque, 25 ans à payer son hypothèque, on n'a plus d'hypothèque, on veut en profiter jusqu'à la fin de nos jours, que nos enfants en profitent suite à une succession, peu importe. 200-300$ d'investissement, c'est rien. Tu sais, je veux dire, pour des montants, surtout quand on voit des maisons Outremont, c'est sûr que c'est pas grand-chose pour dormir tranquille.
Mais à Outremont ou ailleurs, je veux dire, les gens qui nous écoutent en ce moment, si tu es propriétaire en ce moment, t'as envie de vérifier tes affaires. Là. Puis surtout, si tu as l'intention de... Si ton hypothèque est payée, parce que ce que je comprends, c'est que si notre hypothèque n'est pas trop payée, on est moins à risque parce que c'est moins intéressant.
À risque quand même.
Un peu quand même, ouais. Quand même. Ouais.
Ça, mettons, j'ai une maison à Outremont, je fais un exemple. Maison de 2 millions à Outremont, c'est pas mal du standard, les petites maisons. Puis là, il me reste 200 000 d'hypothèque. OK? Alors, le fraudeur pourrait installer une deuxième hypothèque par-dessus la première pour un montant de peut-être 300 000 $400 000 parce qu'ils peuvent financer jusqu'à 75-80% de la valeur de la propriété. Donc, ils pourraient frauder pour mettre une deuxième par-dessus la première. Beau bordel. Là aussi, il y a une force. Il faut faire attention. Ça peut être autant, oui, il n'y a plus d'hypothèque ou il n'y a presque plus d'hypothèque.
C'est ça.
On est à risque.
Ouais.
Une dame à Laval qui s'était fait prendre en 2012 là-dessus aussi. Puis c'est un petit bungalow bien ordinaire.
Ouais.
Mais elle s'est fait prendre.
Il y a des cas, là, dans le cas dont on parle ce matin, là, cette dame de 75 ans, son mari est mort, puis la pauvre dame qui apprend que sa maison a été vendue à son insu par des fraudeurs. Bon, ils se sont fait attraper. Elle a pu payer pour avoir le titre de propriété, mais il y a eu des cas au Québec où les gens n'ont pas pu, là, où ça a été, désolé, la maison est vendue, les gens ont déménagé dedans, il n'y avait plus rien à faire.
Mais ça arrive quand les gens partent en vacances ou les snowbirds, tu reviens à la maison et tu as quelqu'un qui reste dans ta maison.
Eh hey, mon Dieu! Yann Maxime nous appelle, il est victime d'une fraude à la suite de la succession de son père d'ailleurs. Bonjour Yann!
Bonjour.
On vous écoute là-dessus. Expliquez-nous rapidement.
Dans le fond, j'étais au courant de rien. Puis du jour au lendemain, je me suis mis à recevoir des lettres soit du curateur public ou de Revenu Québec pour une attestation de contrat de construction que je comprenais pas parce que c'était j'avais pas vraiment fait ça. Puis là, le curateur public, j'avais reçu une lettre comme quoi disant que mon enfant avait une tutelle dative. Puis là, ça sortait un peu de mes compétences. Parce que là, j'ai commencé à rechercher de l'information. Puis j'ai été voir le commissaire de la vie privée du Canada, m'ont transféré à la commission d'accès à l'information du Québec. Que là, c'est rendu maintenant au tribunal administratif. Puis avec le protecteur du citoyen, la réponse qu'on m'a répondu, c'est que il ne pouvait pas aller à l'envers d'une décision d'un juge de paix. C'est qu'il y a un patrimoine 360 qui a été notarié à mon insu, puis quelqu'un qui administre mes biens, puis dans le fond, administre ma vie.
Mais donc, attendez, vous, c'est carrément un vol d'identité? C'est quoi qu'on vous a pris?
Je le dirais, là, j'ai eu une perte de contrôle là, c'est depuis 2017. J'espère que ça va se finaliser bientôt là, parce que je commence à manquer d'énergie. Là. C'est dur pour le moral, c'est dur pour la tête, c'est dur pour le corps. Là.
Ouais. Aviez-vous une maison là-dedans? Aviez-vous des propriétés?
Moi, j'avais dans le fond qu'est-ce qu'il y a avec la succession de mon père. Ils ont pas transféré l'entreprise, mais ils ont mis un conseil administratif. En tout cas, c'est tout un paquet de faits comme ça que là, j'ai été voir un avocat, là, comme que tout à l'heure j'entendais, les avocats chargent entre 50 et 70 000. Et là, mes comptes de banque sont gelés. Puis là, quand j'appelle à la banque, ils me disent que le compte a été fermé. Ben, là, tu sais, je veux dire, c'est dur.
Oh mon Dieu. Ben, écoutez, bon courage, Yann. Bon courage. Ouais. Sylvain Paquette, du Bureau canadien du crédit. Dans un cas comme celui-là, là, évidemment, c'est beaucoup plus large. Puis ça inclut des propriétés, ça peut inclure des entreprises. C'est le vol d'identité carrément. Évidemment, dans ce cas-là. On embarque dans un dédale administratif. Comme Yann, on ne sait plus vers qui se tourner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une grosse facture salée. Comment se prémunir de ça, Sylvain?
Bien, d'abord, je vous dirais, et juste pour rajouter un fait, là, on a identifié environ 2 ans un groupe criminel qui ciblait des personnes âgées dans des CHLD qui étaient seules, mm-hmm. qui détenaient une propriété, puis déposaient tout simplement une hypothèque légale de construction sur la propriété. Et une fois que la personne était décédée, ils mettaient la main sur la propriété, tout bêtement comme ça. Donc ça, c'est des cas qui ne sont pas signalés, hein, que personne n'est au courant. Mais il y a des fraudeurs qui fonctionnent comme ça aussi. Maintenant, la façon de se protéger, bien d'abord l'assurance type, peut-être aussi garder une hypothèque ou une marge de crédit, idéalement une marge de crédit hypothécaire qui n'est pas utilisée sur l'immeuble, ça peut aider. Et barrer sa boîte aux lettres, vérifier au moins une fois par année, s'assurer que nos comptes de taxes ne sont pas détournés, que notre courrier n'est pas détourné. Mm-hmm. Ça, c'est tous des moyens, mais personne n'est à l'abri de ça. On peut être frappé là, du jour au lendemain, on ne sait pas d'où ça peut venir. Ils peuvent même cibler une maison qui a une hypothèque à 80%. Ils vont tout simplement enregistrer une fausse quittance là, sur le registre foncier. Donc, ils ont toutes sortes de trucs pour y arriver. Donc, malheureusement, on s'assoit, on attend, puis on espère que les dommages ne soient pas trop considérables. C'est pour ça que l'assurance titre est un bon outil.
Oui. Daniel Adam, là-dessus? Daniel? Êtes-vous là, Daniel?
Voilà. Oui, de garder une hypothèque sur une propriété, c'est une excellente décision. Une marge de crédit qu'on n'utilise pas, si un fraudeur arrive sur une propriété et qu'il voit qu'il y a 80% de l'hypothèque potentiellement sur une propriété, ben, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de place pour les travailler. Mais dans le fond, l'hypothèque, elle peut être à zéro, la marge de crédit peut être à zéro, mais elle est enregistrée comme étant une valeur de, mettons, 800 000 sur une maison d'un million,
ouais.
mais elle peut être à zéro.
Ouais.
Donc, pour le fraudeur, il n'y a aucun intérêt. Mais il ne sait pas que c'est à zéro. Il voit une hypothèque enregistrée, donc il n'y a plus de place pour s'enregistrer par-dessus. Mais ce que disait M. Paquette, si on se met à enregistrer des quittances, alors c'est le beau bordel. Hein. On ouais. s'en sort plus.
J'ai des courtiers qui m'écrivent, dont Clara qui me dit, vous disiez tout à l'heure, Daniel, quand on a affaire à des vendeurs, on ne prend pas forcément les identités.
Ça, c'était autrefois. Ça peut changer un peu.
Oui, c'est ça. Elle dit, c'est fou. Elle dit, en fait, on a l'obligation de prendre une preuve d'identité avec photo depuis environ 5 ans. Puis le notaire doit demander, avant c'était une pièce, maintenant il doit en demander deux. D'ailleurs, on va clarifier tout ça avec un notaire tout de suite après la pause. Merci beaucoup, Daniel Adam. Je vous laisse aller. Daniel Adam est courtier immobilier agréé. Il travaille entre autres comme coach en investissement immobilier, chez Immo Facile. Je vais juste parler à Martin vite avant la pause peut-être ou après la pause? Après la pause. On parle à Martin après la pause. Restez là tout le monde, bougez pas. On parle de fraude immobilière et peut-être de votre inquiétude par rapport à l'augmentation de ces fraudes. On va parler à un notaire dans deux minutes, mais je voudrais parler à Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin.
Bonjour, Madame Maréchal.
On vous écoute.
Oui, donc, moi, suite au décès de ma mère, j'ai été chez le notaire juste avant Noël. Mm-hmm. Et je dois aller chercher le document qui confirme l'entente, là, comme de quoi qu'il y a eu un changement de titre. Et comme par hasard, hier, j'ai reçu dans le courrier trois enveloppes. La première adressée au nom de ma mère, c'est un agent d'immeuble. Le deuxième, c'est un investisseur immobilier qui souligne qu'il n'est pas un courtier immobilier puis il n'y a aucune commission. Et l'autre type en question, lui, il serait intéressé à la maison. Lui et sa conjointe recherchent une résidence permanente. Ils ont été approuvés pour une hypothèque. Donc, en plus de ça, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu sonner ici, qui voulait acheter la maison, paye comptant, tout ça.
Mon Dieu, il y a de l'action sur cette maison-là?
Oui, dans l'ouest de l'île, ici, il y a de l'action, puis ça sent l'arnaque et je suis en mode de vigilance.
Mais oui, effectivement, ça veut dire quoi, mode vigilance, Martin? Vous faites quoi?
Bien là, je dois aller justement tout à l'heure, après le dîner, chez le notaire. Mm-hmm. Je vais discuter de ça avec lui, puis probablement que je vais être obligé de me procurer une assurance titre pour me protéger parce que malheureusement ici au Canada le crime avec l'impunité ben on fait tout ce qu'on veut puis personne n'est coupable, personne n'est puni puis mm-hmm. C'est les pauvres personnes qui payent le prix.
Donc, vous avez une inquiétude. Ben, c'est intéressant. Merci, Martin. J'espère que notre prochaine entrevue avec Jean Lambert va répondre à quelques-unes de vos questions. Jean Lambert est l'ex-président de la Chambre des notaires du Québec. Bonjour, Jean.
Bonjour, Madame Maréchal.
Bon, il y a beaucoup de choses ce matin. Les gens me disent, OK, c'est bien beau, mais là, comment se fait que les notaires ne surveillent pas ça? Qu'est-ce qu'on y connaît, nous? Les agents disent, ben nous, une fois que la transaction est faite, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est au notaire à vérifier. Fait que finalement, ça s'en va tout chez vous, ça.
Bon, alors écoutez, première des choses, je voulais juste revenir un peu sur le dernier intervenant, là, alors qui dit que c'est personne, il n'y a pas de coupable, etc. Là, avec respect, là, c'est pas tout à fait vrai, là, parce qu'il y a eu quelques fraudes, il n'y en a pas sur beaucoup. Il y en a quelques fraudes et il y a eu de l'action. Et si le notaire était en faute au niveau de la vérification des identités des personnes, alors on a un fonds d'indemnisation là-dedans pour couvrir. Alors
donc on peut toujours
C'est pas vrai qu'il n'y a pas rien. Okay. C'est sûr que c'est ennuyant pour les personnes qui vivent ça, là, parce que ça ne se règle pas du jour au lendemain. Dans le cas de Martin, ce qui est arrivé, là, c'est les gens, le registre foncier, c'est un registre public. Alors, il y a des gens qui sont payés pour, à la journée longue, de vérifier les transactions et les enregistrements qui se font. Alors, quand ils voient un transfert de succession, comme il semblerait que c'est le cas de Martin, là, alors là, eux autres, ils disent, ben probablement, lui, là, il vient d'avoir la maison de sa mère, probablement qu'il ne l'habitait pas, ça, sans doute qu'ils ont vu, ont été voir, parce qu'il y a l'adresse de la propriété, il la trouve facilement, et s'ils voient que c'est une maison qu'il est occupée, ils se disent, ça, c'est une maison à vendre. Et comme le marché immobilier est actuellement en surchauffe à Montréal, on le sait, alors là, c'est la précipitation. Le plus vite possible pour être capable de mettre la main sur cette maison-là, sans doute à un prix pour quelqu'un qui va revendre la personne un peu plus cher. Mm-hmm. Ça, c'est un scénario qui est susceptible de se passer actuellement, compte tenu de l'état du marché. Maintenant, j'ai pas vu le cas dont la presse...
Oui, fait état. Ouais. Ben là, c'est une dame de 75 ans, son mari venait de mourir. Effectivement, la maison louée à d'autres personnes, des locataires. Et puis, les fraudeurs ont pas... au moins, ils ont pas demandé la permission. Ils l'ont pris carrément, la propriété de la maison. Ils se sont fait passer pour le monsieur qui était mort. Puis le notaire, il a vu que du feu, monsieur Lambert.
Qui arrive, il est possible. Évidemment, là, je connais pas les détails, j'y vais juste d'une façon générale. Mm-hmm. Actuellement, le notaire doit procéder à des vérifications d'identité. Malheureusement, on n'a pas de carte nationale d'identité au Canada ni au Québec. Donc, on se rabat sur les meilleures preuves qu'on peut avoir, généralement, le permis de conduire et la carte d'assurance maladie. Or, les faussaires, particulièrement les Chinois, sont pas assez maîtres dans l'art de vraiment faire de fausses cartes d'identité, des faux permis de conduire, des fausses cartes de maladie. Puis, avec ça, c'est sûr que le notaire qui se voit présenter ces pièces-là, il a l'impression qu'il est en présence des bonnes personnes.
Mm-hmm. Mais on peut pas travailler sur des impressions. Il faut qu'il fouille un peu plus que ça.
C'est parce que c'est qu'on est un peu à court de moyens. Quel autre moyen on a? Alors, c'est ça qui est difficile actuellement. Vu qu'on n'a pas une carte nationale, comme ça se passe dans d'autres pays où il y a une carte nationale d'identité qui est contrôlée par l'État, là, on se sert de pièces, si je peux dire, incidentes. Alors, ça marche la plupart du temps, mais ça se peut que le notaire ait été victime, effectivement, de faux documents.
Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, puis il y a des questions d'auditeurs.
La dame n'est pas sans recours. Là, à ce moment-là, j'imagine qu'elle va contacter, si elle ne l'a pas déjà fait, la Chambre des notaires, et on va la guider exactement sur ce qu'il doit être fait.
Ben, dans ce cas-ci, à Outremont, le payer entre 40 et 70 000 piastres pour retrouver son titre de propriété, ce qui a été fait. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est prenez donc une assurance titre, les propriétaires, ça va vous protéger. Les gens m'écrivent et veulent savoir, l'assurance titre, ça nous protège, mais qui paye? Bon, ça se peut-tu que la compagnie d'assurance décide que finalement, tu avais juste à checker tes affaires, puis on ne paye pas? Les gens sont inquiets. On a vu ça des assureurs aussi. Ce n'est pas parce que tu as une assurance qu'elle va forcément te payer non plus.
Effectivement, je pense que c'est un peu court de dire aux gens, prenez une assurance titre. Maintenant, c'est certain qu'il y a une protection avec ce produit-là, mais c'est les gens qui doivent payer. Alors, si vous voulez vous couvrir avec une assurance titre, vous devez payer à l'assureur la prime. Alors, c'est ça. Maintenant, encore là, faut voir, parce que c'est pas toutes les polices qui sont semblables, et à l'intérieur d'un même assureur, il y a diverses polices. Alors,
mais est-ce qu'il y a des polices
que l'on veut couvrir?
Mais la fraude, est-ce qu'il y en a une qui existe pour contrer, nous protéger de la fraude immobilière? Ça existe-tu, ça?
C'est-à-dire que la police d'assurance serait prise pour l'acheteur. Qui achèterait pas de la bonne personne, par exemple, qui vend. Dans le cas que vous soulevez à Outremont, c'est définitivement pas le bon vendeur. Alors, c'est l'acheteur, dans le fond, là-dedans, qui se retrouve avec une maison qui, finalement, ne lui appartient pas lorsqu'on aura prouvé qu'effectivement, la personne qui lui a vendu, n'était pas la bonne personne qui était propriétaire.
Dernière question.
Donc, l'assurance-titre va couvrir l'acheteur dans ce cas-là.
Est-ce qu'il faut, quand on a plus d'hypothèques, me demande Anne-Marie, une propriété libre d'hypothèque, est-ce que c'est mieux d'obtenir une quittance?
Ah, c'est préférable. Je dirais, ça s'impose. Normalement, lors de la transaction, le notaire retient les fonds nécessaires pour payer le créancier. Ça se fait directement. Et à ce moment-là, le notaire produit un acte de quittance au créancier qui doit le signer une fois qu'il reçoit les fonds. Mmh. Et cette quittance-là est déposée au bureau de la publicité. Donc, en fait, l'endroit important où ça doit être, c'est au bureau de la publicité parce que c'est là que l'hypothèque disparaît.
Bon.
Par ce document-là. Maintenant que le vendeur est, parce que son hypothèque a été remboursée, une copie, c'est préférable, bien sûr, mais l'important, c'est qu'on lui confirme que l'hypothèque a bien été radiée au bureau d'enregistrement.
Voilà. Et Jean-Lambert, on va devoir se quitter ici, mais je pense qu'on est dû pour faire une petite session.
Avec plaisir.
Allô 911, j'ai besoin de conseils de mon notaire. Vous allez revenir nous parler, puis on ouvrira les lignes et les gens pourront vous poser toutes sortes de questions là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, Jean-Lambert. Au revoir, ex-président de la Chambre des notaires. Merci beaucoup, Sylvain Paquet, de nous avoir parlé ce matin.
Merci. Plaisir.
À très bientôt. Sylvain Paquet est analyste en fraude du Bureau canadien du crédit. Ça va vite ce matin. On arrête très peu. 2 minutes, on vient tout de suite. On va parler de la formation pour les juges. Restez là, tout le monde.